19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous pour Le Monde Aujourd'hui, édition du 21 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington, en compagnie de Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, République centrafricaine, calme précaire à Grimari au lendemain d'affrontements entre Sangaris et les Antibalaka. Remaniement ministériel au Tchad, Niger, grande manœuvre au Parlement pour faire tomber Hamadou.
Notre objectif est connu. Au niveau de la majorité, c'est celui de débarquer le président de l'Assemblée nationale de son perchoir.
Le vice-président américain Joe Biden en visite en Ukraine alors que la crise persiste. Et nous aurons bien sûr les sports et la musique de Roger Muntou en fin d'émission, mais avant tout, le journal.
En République centrafricaine, le calme est revenu à Grimari, au centre du pays. Hier, de violents accrochages ont opposé des militaires français de l'opération Sangaris aux Antibalaka dans le centre de la ville. Selon des sources locales, les combats auraient fait plusieurs morts et des blessés, parmi lesquels des civils. On fait le point avec Idriss Fall.
Depuis ce matin, un calme précaire est revenu à Grimali sous contrôle des soldats français de l'opération Sangaris. Selon une source médicale, les affrontements ont d'abord opposé hier matin les ex-Seleka aux Antibalaka. Les militaires français auraient été pris à partie par les miliciens Antibalaka. La riposte a été violente et plusieurs dizaines de miliciens ont été tués. Le commandement de l'opération Sangaris a parlé de légitime défense, mais n'a donné aucun bilan. Guillaume Pana, porte-parole des Antibalaka à Grimali, a réfuté les accusations portées contre ces hommes, signalant des pertes en vies humaines dans leur rang. Les combats ont de nouveau fait fuir des milliers de personnes à la mission catholique où sont déjà massés plus de 7000 déplacés. Par ailleurs, à Bangui, un homme a été retrouvé mort ce matin dans le quartier Bazanga, dans le 5e arrondissement. Il a été égorgé par des inconnus, ce qui a provoqué la colère des habitants de ce quartier qui ont transporté le corps devant la primature.
Le Premier ministre tchadien Kalzebe Paimi Debe a procédé hier soir au remaniement de son cabinet. Reportage de François Djekombe Anjamena.
Ce remaniement, intervenu 5 mois après la nomination de Kalzebe Paimi Debe comme Premier ministre, voit le nombre de son cabinet passer de 42 à 27 membres, dont 21 ministres et 6 secrétaires d'État. Si pour les ministères clés, il n'y a pas de changement, Bedoumra Cordier aux finances, Moussa Faki Mahamat aux affaires étrangères, Benaïndo Tatola à la défense, Adam Younousmi aux infrastructures ou Maître Béchir Madé à la justice et aux droits de l'homme, on voit par ailleurs certains ministères fusionnés tels la santé et les affaires sociales confiés en Gariera Rimadita ou encore l'agriculture et l'environnement, chapeautée par une femme, Maître Rosine Djibergui Aman. L'entrée la plus remarquable est sans doute celle du directeur de la télévision nationale, Abdoulaye Ngardigina, qui s'occupe désormais du département de la culture, jeunesse et sport. On compte dans cette nouvelle équipe 2 femmes ministres et 5 femmes secrétaires d'État, soit un pourcentage global de représentativité des femmes de 25,92%. Ndjamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
Merci François Djekombe. L'élection présidentielle en Mauritanie est fixée au 21 juin. L'opposition, qui avait posé les conditions à sa participation au scrutin, dénonce une annonce unilatérale qui consacre, selon elle, l'échec du dialogue national. Moussa Ould Hamed, journaliste et responsable de la revue Biladi, explique la ligne de démarcation entre le pouvoir et l'opposition au sujet de la présidentielle.
Pour la majorité, on ne peut pas changer les dates qu'ils appellent constitutionnelles parce que la dernière date prévue pour la convocation du collège électoral, c'est le 21 avril parce que l'élection doit se passer dans le même délai, c'est-à-dire 2 mois avant le scrutin qui est fixé au 21 juin. Donc, le pouvoir voulait amener les opposants à une formule pour leur demander d'accepter la convocation tout en prenant l'engagement d'appliquer ce à quoi va aboutir le dialogue. L'opposition voulait plutôt quelque chose de plus clair. L'accord, c'est des élections consensuelles. Donc, il y a eu ce truc formel qui a fait échouer le dialogue. L'opposition tient une conférence de presse pour expliquer que le dialogue a échoué.
Un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio a coûté la vie à un député somalien, Camille Grosdidier.
Isaac Mohamed Ibrahim a été tué suite à l'explosion d'une bombe dissimulée sous son véhicule. L'incident est survenu dans le quartier d'Amar Weyne à Mogadiscio, la capitale. Un autre député, Mohamed Abdi, a été blessé. La milice des insurgés islamistes Shebab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Ce groupe lié au réseau Al-Qaïda a perdu du terrain ces dernières années face à la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Mais les militants continuent de mener des attaques. En février, 17 personnes ont été tuées lorsque des Shebab ont pris d'assaut le palais présidentiel. Le président Hassan Sheikh Mohamoud en est sorti indemne.
Boko Haram a revendiqué l'attentat meurtrier dans la capitale nigériane Abuja la semaine dernière qui avait fait au moins 71 morts. Dans une vidéo, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a raillé les autorités nigérianes qui avaient promis à maître prise de venir à bout des islamistes. D'autre part, plus de 100 filles enlevées par les hommes armés dans leur lycée à Chibok, dans l'état de Borno, sont toujours portées disparues. 32 ont échappé à leurs ravisseurs.
Des djihadistes ont publié sur les réseaux sociaux la nuit dernière une vidéo montrant un employé de l'ambassade de Tunisie enlevé en mars à Tripoli, a indiqué l'AFP. Dans la vidéo, Mohamed Béchik supplie le président tunisien de négocier avec ses ravisseurs qui se réclament du groupe Shabab Tawhid. Supprimée peu après sa publication, cette vidéo ne fait aucune mention d'un autre employé de l'ambassade tunisienne, Haroussi Kontassi, enlevé la semaine dernière par le même groupe, selon le gouvernement tunisien.
Et fin des travaux de la deuxième session du comité bilatéral algéro-malien sur le Nord-Mali. Les deux pays ont annoncé dans un communiqué qu'ils vont faire front commun contre le terrorisme au Sahel. Ils ont aussi appelé à un dialogue intermalien inclusif dans les meilleures conditions et délais, précise l'agence France-Presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise ukrainienne, le vice-président américain Joe Biden est arrivé à Kiev pour des entretiens avec le président intérimaire et le premier ministre ukrainien. Cette visite intervient alors que la situation dans l'est du pays reste tendue, malgré l'accord de Genève qui devait faire baisser la tension. Bagassikoura.
Les responsables de la Maison-Blanche affirment que Joe Biden va discuter des efforts de la communauté internationale pour aider l'Ukraine dans la réforme constitutionnelle. Il devrait évoquer aussi la tenue des élections le 25 mai prochain. M. Biden rencontre mardi le Premier ministre et le président intérimaire de l'Ukraine. Il prévoit également de discuter avec les parlementaires ukrainiens, histoire d'envoyer un message de soutien à l'actuel gouvernement ukrainien. Les États-Unis menacent également d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie si Moscou continue de soutenir les manifestants pro-russes qui occupent plusieurs bâtiments publics dans l'est de l'Ukraine. La trêve du dimanche de Pâques a duré à peine quelques heures. Elle a été brisée par une fusillade à un poste de contrôle dans la ville orientale de Slaviansk. 3 personnes ont été tuées.
En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a déclaré que les actes du capitaine et de l'équipage du ferry qui a fait naufrage la semaine dernière avec 476 personnes à bord s'apparentent au meurtre. Le capitaine et 2 membres d'équipage ont été d'ailleurs arrêtés samedi pour avoir abandonné leurs passagers alors que le bateau coulait. Les secouristes ont pu sauver 174 personnes, 60 cadavres et certaines sources disent 80 ont été repêchés et plus de 200 autres sont portés disparus. Le Pentagone a annoncé l'envoi d'un navire spécialisé américain pour aider dans les opérations de secours.
La présidentielle en Syrie a été fixée au 3 juin. Les Syriens de l'extérieur voteront le 28 mai. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président du Parlement, Mohamed Laham. Les dépôts de candidatures seront acceptés à partir de demain. Ce scrutin que rejette l'opposition ouvre la voie à la réélection de Bachar al-Assad. Malgré une guerre qui a déjà fait plus de 150 000 morts en 3 ans, plus de 2,5 millions de Syriens se sont réfugiés dans les pays voisins, tandis qu'à l'intérieur du pays, on compte plus de 6,5 millions de déplacés. Bachar al-Assad a succédé à son père Hafez al-Assad il y a 14 ans.
Aux Philippines, le maire de Gonzaga, une ville située dans le nord du pays, a été tué. Carlito Pentecostes présidait une cérémonie dans les locaux de la mairie quand au moins 20 hommes armés ont attaqué le bâtiment et l'ont abattu. Avant de prendre la fuite, les assaillants ont répandu des tracts sur l'extraction du sable noir et les peines que les gens pouvaient encourir s'ils y participent. Le maire assassiné était prétendument un promoteur de cette exploitation minière dans sa région. La police soupçonne la branche armée du Parti communiste philippin d'être responsable de l'attaque.
Et le marathon de Boston s'est couru ce lundi de Pâques, une ambiance particulière, un an après les attentats qui ont endeuillé la course. Les coureurs et les familles des victimes étaient au rendez-vous sur la ligne de départ, n'est-ce pas Nicolas Pinault ?
Oui, 36 000 personnes se sont élancées ce matin dans les rues de Boston contre 27 000 l'année dernière. Hausse de la participation, mais aussi regain de sécurité le long du parcours. Des caméras, des milliers de policiers et des centaines de membres de la garde nationale. Il y a un an, deux bombes avaient explosé près de la ligne d'arrivée, tuant trois personnes et en blessant plus de 260 autres. Le dernier suspect vivant, Zohar Tsarnaev, verra son procès débuter en novembre prochain. S'il est reconnu coupable, il encourt la peine de mort. Côté sportif, l'édition 2014 a été remportée tout à l'heure par Meb Keflezighi. Ce coureur né à Asmara, en Érythrée, est le premier Américain à remporter l'épreuve depuis 1983.
Un adolescent de 16 ans est chanceux d'être encore en vie après avoir passé plus de 5 heures dans le train d'atterrissage d'un avion de ligne reliant la Californie et Hawaï. Selon un responsable du FBI, la Sûreté fédérale, le jeune homme a sauté par-dessus une clôture et est monté dans la trappe qui contient l'un des trains de l'avion avant le décollage à San José, une ville située au sud de San Francisco. Toujours selon le FBI, il a dû perdre connaissance pendant la majeure partie du vol, mais il a survécu au manque d'oxygène et à un froid extrême. Il a retrouvé ses esprits une heure après l'atterrissage. Après les examens médicaux, l'adolescent a été transféré aux autorités locales.
Et voilà pour le journal. Nathalie Barge, en direct du Studio 13 à Washington, en compagnie de Chérubin Dorsil. Rien ne va plus, ou presque, entre la majorité et l'opposition parlementaire au Niger. En toile de fond, la probable destitution du président de l'institution, Hama Hamadou, devenu opposant depuis bientôt 8 mois, après plus de 2 ans de soutien au président nigérien Issoufou Mamadou. Ce week-end, les travaux de l'Assemblée ont été l'occasion d'empoignades. Reportage à Niamey du correspondant de La Voix de l'Amérique, Abdul Radak Idrissa.
Depuis qu'il a quitté la mouvance présidentielle en août 2013, le président de l'Assemblée nationale, Hama Hamadou, s'est mis dans le viseur de la majorité parlementaire.
Notre objectif est connu. Au niveau de la majorité, c'est celui de débarquer le président de l'Assemblée nationale de son perchoir. Et on va le faire, Inch'Allah, pour la bonne et simple raison que c'est un événement inédit dans l'histoire politique de notre pays. On ne peut pas appartenir à une opposition et trôner sur le perchoir comme étant de la majorité. Nous sommes engagés dans un processus. Nous allons le mener à bon port, advienne que pourra.
Seulement, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne fait pas cas de la procédure à suivre pour destituer le président de l'institution, Ben Omar Mohamed, député de la majorité.
La Constitution a dit, en son article 89, en cas de crise de confiance, voilà ce qu'on peut faire au président de l'Assemblée. Mais notre règlement intérieur est muet. Et comme il est muet, c'est de notre devoir d'être conforme à la Constitution en donnant une proposition de loi et en complétant notre règlement intérieur pour la mise en œuvre de la disposition de la destitution du président de la République, telle que stipulée par l'article 89.
Le bureau de l'Assemblée doit donc se réunir pour faire la proposition de l'examen de cette requête à la plénière, mais il est incomplet. Les députés de la majorité refusent d'élire 2 membres à des postes qui doivent revenir à l'opposition parce que, disent-ils, les candidats présentés ne font pas l'unanimité au sein de leur groupe. Et depuis, tout semble bloqué parce que l'opposition n'entend pas fléchir. Abdelkadri Tijani, député de l'opposition.
Les groupes parlementaires sont souverains. Les dispositions sont claires par rapport aux candidatures au bureau de l'Assemblée nationale. C'est les groupes parlementaires qui les déposent. Il n'est pas question pour nous de revenir sur ces candidatures. Nous maintenons nos candidats, Inch'Allah. Ils seront obligés de travailler avec eux.
Les députés de la majorité demandent alors carrément au président de l'Assemblée nationale de rendre le tablier Et voici ce que leurs collègues de l'opposition rétorquent.
Le président de la République, il se réclame d'une majorité. Qui le lui a donné? Ce n'est pas Mahamadou, c'est Loumane qui lui a donné. Loumane est parti. Donc, est-ce qu'il a encore une légitimité, comme le disait, par parallélisme de force, qu'il démissionne aujourd'hui, demain, on va démissionner?
On en est là aujourd'hui, mardi 22 avril, une autre séance plénière est prévue. Abdul Razak Idrissa, en Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
L'Organisation des Nations Unies a accusé les rebelles au Soudan du Sud d'avoir tué des centaines de civils sur les bases ethniques. Lionel Gaïma.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud affirme que les meurtres ont eu lieu à Bentiu, à la prise de cette ville par les rebelles le 15 avril dernier. La mission affirme que les rebelles ont tué plus de 200 civils et ont blessé plus de 400 dans une mosquée où des centaines de personnes avaient trouvé refuge. La mission onusienne au Soudan du Sud précise que les rebelles ont amené en lieu sûr des personnes de certaines nationalités et ethnies avant de tuer les autres. Selon la mission, les rebelles de Riek Machar ont également tué plusieurs personnes dans une église catholique, un hôpital et un bâtiment abandonné du programme alimentaire mondial, après leur avoir demandé de révéler leur origine ethnique. Un responsable de l'ONU au Soudan du Sud, Toby Lanzer, a posté sur Internet une vidéo montrant plusieurs corps gisant le long d'un chemin de terre à Bentiu. Il a dit sur Twitter que des milliers de personnes ont fui la ville ces derniers jours et que 22 000 civils sont désormais protégés dans une enceinte des Nations Unies. Le porte-parole du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Nick Birnbach, a dit à la VOA que la mission avait déployé des forces supplementaires sur le terrain.
Civilians are, as always, bearing the brunt of it.
Les civils, comme toujours, sont les premières victimes. Nous faisons tout notre possible pour travailler avec les autorités locales pour tenter non seulement d'enquêter, mais également de dissuader. Mais en fin de compte, ce sont les autorités sud-soudanaises qui devront agir pour mettre un terme à ces terribles événements. Le chef de la MINUS, Rezedon Zenenga, a condamné ces meurtres, soulignant que les auteurs doivent répondre à leurs actes. Le Soudan du Sud est ravagé par des combats depuis la mi-décembre. Le gouvernement de Juba avait accusé l'ancien vice-président Riek Machar de tentative de coup d'État. Les affrontements entre les forces rebelles et gouvernementales ont fait des milliers de morts et environ 1 million de déplacés, alors que le pourparler de paix en Éthiopie n'ont fait aucun progrès.
Le service francophone de la Voix de l'Amérique sur satellite. Nos émissions sont désormais disponibles sur Arabsat, 26 degrés Est, fréquence de réception 11 938 GHz. Effectuez une recherche sur tous les canaux pour retrouver vos émissions habituelles, la VOA, avec vous, partout.
En République démocratique du Congo, le trafic des bateaux sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma est bloqué depuis le 14 avril et pour cause, les armateurs sont en grève. Ils dénoncent l'instauration par le gouvernement provincial du Nord Kivu d'une nouvelle taxe appelée taxe d'embarcation des marchandises. Voici un reportage de Jolie Kamuntu à Bukavu dans le Sud Kivu.
Selon le secrétaire exécutif de l'association des armateurs sur le lac Kivu, chaque tonne de marchandises doit payer 10 dollars avant de quitter les ports de Goma pour Bukavu. Prudent Pama note que cette nouvelle taxe vient seulement s'ajouter à une multitude d'autres qui asphyxient déjà les armateurs. Conséquence, des marchandises sont bloquées au port dans les bateaux qui se préparaient déjà à venir à Bukavu. Les commerçants de Goma et de Bukavu ajoutent que 1400 tonnes des produits vivriers qui devaient être acheminés à Bukavu sont bloqués dans les ports de Goma et pourrissent au fil des jours. Réaction de la population du Sud Kivu qui vit de ces denrées en provenance du Nord Kivu.
Cette grève est fondée parce que quand on augmente les taxes, les commerçants doivent augmenter sur leur coût de vente ce qu'ils ont eu comme taxe. Et aujourd'hui, s'ils ont fait grève, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils ne vont pas se retrouver. Et voilà la conséquence. La vie sociale devient intenable aujourd'hui. Il y a hausse des prix. Ça fait une fissure sociale dans la province du Sud Kivu.
Je me rends compte que la population ou les consommateurs n'ont pas été suffisamment impliqués pour être préparés avant que ces taxes soient mises en application. Et c'est regrettable parce que toutes les actions du gouvernement devaient viser l'intérêt général de la population.
Trop d'impôts, tue l'impôt. Cette situation devrait nous interpeller, nous, population de la province de Kivu. Ça serait une occasion pour que nous puissions réfléchir comment décoller notre agriculture comme l'ont fait les Chinois. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands exportateurs des produits agricoles.
Pour la société civile du Sud Kivu, la revendication des armateurs est noble car cette nouvelle taxe a été annulée par le premier ministre congolais. Descartes Mpongé, président du bureau de coordination.
Dans ces pays, on s'est mal habitué à ne pas respecter les lois du pays, à ne pas respecter les textes. Il est inconcevable qu'on puisse, au milieu de l'année, instituer une taxe. Là, on viole un principe sacré de l'annualité du budget. Il est inconcevable que le premier ministre, chef du gouvernement, puisse prendre une décision et que cela soit foulé au pied délibérément par le niveau provincial. Ça, c'est très scandaleux. Ça nous montre que la République n'existe pas.
Les commerçants de Bukavu qui se trouvaient à Goma au moment du déclenchement de cette grève passent la nuit à la Belle Étoile dans les installations portuaires de la ville du Nord Kivu. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
L'ancien boxeur américain Robin Carter, alias Hurricane, est mort hier à Toronto, au Canada, des suites d'un cancer de la prostate. Il avait 76 ans. L'erreur judiciaire dont Hurricane avait été victime dans les années 1960 avait fait de lui un symbole de l'injustice raciale aux États-Unis. Idrissa Seloudia.
Hurricane Carter avait été reconnu coupable par un jury exclusivement blanc du meurtre de trois blancs en 1966 dans un bar du New Jersey. Même sort pour John Artis, un autre Africain-Américain. Le jury avait fondé son verdict essentiellement sur le témoignage de deux voleurs qui, plus tard, sont revenus sur leur déclaration. Dès le début, Carter et Artis ont clamé leur innocence. Un groupe de célébrités et d'activistes en était convaincu et réclamé leur libération. Parmi eux, Mohamed Ali et un certain Bob Dylan. Hurricane, cette chanson de Bob Dylan, allait en 1975 immortaliser la controverse, tout comme en 1999, le film du même nom qui a valu à l'acteur Denzel Washington le Golden Globe du meilleur acteur et une nomination aux Oscars. Après un second procès suivi d'une autre condamnation en 1976, un juge fédéral a annulé ce verdict en 1985, concluant que le premier jugement était influencé par un appel au racisme plutôt qu'à la raison et par la dissimulation plutôt que par la transparence. Après sa libération, Carter est allé s'installer à Toronto, au Canada, où il a consacré le restant de sa vie à animer l'association de défense des victimes d'erreurs judiciaires.
Le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Nicolas Pinault qui est venu nous rejoindre dans ce studio 13 à Washington. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors, drame du football hier après-midi au Gabon.
Eh oui, le gardien de but de la Sebongoville est décédé. Le Togolais Sylvain Azougoui a été touché à la tête à la suite d'un choc avec un attaquant du CMS. Malgré l'intervention des secours, le joueur n'a pu être réanimé. Il a été prononcé mort quelques heures plus tard à l'hôpital de Franceville. Entre douleur et incompréhension, écoutez la réaction de l'entraîneur de la Sebongoville, Thomas Liby.
L'attaquant, il est rentré sur lui. Lui, il avait déjà le ballon couché. Le gardien, lui aussi, en voulant l'esquiver, il lui a donné le derrière de la tête et puis ben voilà, c'est le genou de l'attaquant qui lui prend justement au niveau de la tête et ben voilà, c'est ce qui s'est passé quoi. Je pense pas que les secours qui sont arrivés c'était déjà des professionnels. Déjà les brancardiers qui étaient au stade c'est pas des spécialistes. Maintenant bon, on a passé 6 minutes à vouloir le ramener et après on l'a remis dans l'ambulance pour le transporter à l'hôpital de Bongoville où déjà il y avait une grève donc il y avait aucun médecin. Et donc, je pense que c'est le temps passé au niveau de l'hôpital de Bongoville, après pour prendre la route pour aller justement sur Franceville qui a causé un gros problème. Il avait perdu déjà beaucoup de sang au stade. Et les 30 minutes perdues, par exemple, à l'hôpital de Bongoville, je pense que c'est ça qui a causé ce traumatisme-là. Donc, avant qu'on arrive avec lui au niveau de l'hôpital de Franceville, je pense qu'il était déjà passé.
Voilà Thomas Liby, l'entraîneur de la Sebongoville. Et ce soir, Nathalie, la Ligue nationale de football gabonaise tient une réunion concernant cette affaire.
Et ce week-end, la qualification de la Mauritanie pour la suite des éliminatoires de la CAN.
Oui, un peu plus réjouissant. Victorieux 1-0 chez eux il y a une semaine, les Mourabitoun ont remporté la deuxième manche disputée dimanche face à l'île Maurice. Les deux buts mauritaniens ont été inscrits par Dembasso et Moulay Ahmed Bessam. La Mauritanie se qualifie pour la suite des éliminatoires dont on suivra le tirage au sort le 27 avril au cours d'une cérémonie qui aura lieu au Caire.
Et on peut rappeler que le Soudan du Sud s'est qualifié suite au forfait de l'Érythrée.
Et sachez aussi que la Gambie a été disqualifiée des éliminatoires de la CAN Junior pour avoir aligné des joueurs inéligibles car trop âgés face au Libéria.
Une petite brève.
Diminué par une petite gêne à un genou, l'attaquant camerounais de Chelsea, Samuel Eto'o, a été contraint de déclarer forfait pour la demi-finale de demain en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid.
Et pour finir, la NBA, championnat de basket nord-américain, début des playoffs.
Après Indiana et Toronto, un autre poids lourd de la conférence Est s'est incliné d'entrée. Les Chicago Bulls de Joakim Noah, battus par Washington 93-102. À l'ouest, Portland a dominé Houston dimanche après prolongation 122-120. Enfin, cette dernière information, les Knicks de New York ont limogé leur entraîneur Mike Woodson après son échec pour la qualification en playoff de la franchise de la Grosse Pomme.
Merci Nicolas pour cette page sportive. La page musicale à présent avec Roger Muntou qui va nous parler de Justin Bieber. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. Justin Bieber fait toujours la une de l'actualité. La Maison Blanche répond à la pétition réclamant l'expulsion de l'artiste du territoire américain. Interpellé via une pétition signée par près de 275 000 Américains demandant son départ, la présidence américaine a invoqué des dispositions l'autorisant à ne pas se saisir de certaines de ses demandes et a toutefois choisi de ne pas répondre directement. Ce soir, nous écoutons sa chanson You Smile.
Ooh, yeah. I wait on you forever and a day. Hand and foot, your world is my world. Yeah, ain't no way.
Rappelons que la justice américaine, Roger, accuse Justin Bieber de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue avec un permis périmé et de résistance à son arrestation le 23 janvier.
Oui, Nathalie, l'artiste sera jugé le 5 mai à Miami, en Floride, pour une affaire de rodéo sauvage en voiture.
Justin Bieber, You Smile, merci Roger.
De rien, Nathalie.
Roger Muntou, que vous retrouverez dans un instant dans le RM Show.
I'm not afraid to die.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. À la console, c'était Keith Holm et Rob McLean. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. C'était avec vous Nathalie Barge et Chérubin Dorcil. Très bonne soirée à tous.